VOA Afrique, les infos. À Washington, Henri Francisque.
16h à Conakry, 17h à Brazzaville, bienvenue à notre journal. Au Burundi, les forces de sécurité occupent les points stratégiques de la capitale et ratissent les quartiers contestataires à la recherche d'éléments armés. Après les attaques menées par des insurgés ce matin contre deux camps militaires dans le nord et le sud de Bujumbura, l'ISCAM, l'Institut supérieur des cadres militaires, et le camp de Ngagara. Un troisième camp, celui de la brigade de Mujedjuru, à une quarantaine de kilomètres de la capitale, a également fait l'objet d'une attaque. Selon les autorités, les assaillants ont été mis en déroute dans ces trois sites. Bilan, d'après le gouvernement, au moins 12 attaquants tués et 21 capturés contre seulement 5 blessés côté militaire. Mais un haut gradé de l'armée burundaise a affirmé à l'AFP qu'il y avait eu des pertes des deux côtés. J'ai joint notre correspondant à Bujumbura, Christophe Nkurunziza.
Il y a des militaires, des policiers de l'appui pour la protection des institutions qui est en train de ratisser dans ces quartiers contestataires. Quand ils passent les policiers, ils tirent. Donc, j'ai entendu tout à l'heure dans le quartier où je suis, des gens qui étaient en train de crier au passage de ces policiers. Mais pour le moment, je peux dire que là où je suis, c'est un peu calme.
Christophe Nkurunziza, notre correspondant à Bujumbura, pour une idée de la situation au plus fort des combats ce matin, écoutons un habitant de Bujumbura, Albin Isaac, au micro de Jean-Roger Bion, il y a environ 6 heures.
Les tirs ont commencé vers le croisé du matin. Le camp ISCAM, Institut supérieur des cadres militaires, a été attaqué et le camp Mohara de Bujumbura ainsi que le camp Ngagara. Jusqu'à présent, personne ne peut accéder à sa maison. Nous sommes tous à la maison. Seuls les militaires du camp présidentiel et la police de protection des institutions nous entourent et protègent surtout le palais présidentiel. Les tirs continuent, les bombes, les obus aussi continuent à sonner jusqu'à maintenant dans le cadre de Moussaga, Nyakabiga, les gens de Nyakabiga.
Alors, qu'est-ce que les autorités ont annoncé?
La radio-télévision du Burundi, aucun message n'a été donné parce que ni les porte-parole, aucune autorité ne peut pas accéder à sa maison. Tous se trouvent à la maison. Aucun bâtiment ne peut pas passer. Aucune personne ne peut pas passer dans la route. Donc, tous se trouvent dans la maison. Donc, vous comprenez que tout se trouve dans les maisons et les bombardements continuent jusqu'à présent.
Est-ce que les militaires sont dans les rues?
Oui, pour nous, moi je suis à Kilili, donc nous sommes entourés par les soldats, donc les cas présidentiels et les policiers de l'appui. Donc ils essayent de protéger le palais présidentiel, mais les tirs continuent à se bombarder dans le quartier de Moussaga, Gasekebouyi et Nyakabiga, les gens qui s'y trouvent. Crie au secours pour qu'il y ait un secours comme ça.
Albin Isaac, un habitant de Bujumbura, au plus fort des combats dans la capitale. Les affrontements d'aujourd'hui sont les plus intenses à Bujumbura depuis le coup d'État manqué des 13 et 14 mai 2015. L'émissaire spécial américain pour la région des Grands Lacs, Thomas Perriello, s'est dit alarmé par la violence aujourd'hui à Bujumbura. Il appelle à un cessez-le-feu et au retour au calme.
Vous êtes à l'écoute de VOA Afrique.
La lutte contre Boko Haram maintenant au Cameroun. Au moins 7 civils tués ce matin dans un attentat suicide à Kolofata dans l'extrême nord du pays où le groupe islamiste nigérien est très actif. Un bilan confirmé par les autorités locales. Le kamikaze s'est fait exploser dans un lieu de vente de beignets. Et puis au Tchad, retour aujourd'hui à N'Djamena des 2000 derniers soldats du corps expéditionnaire tchadien partis début 2015 au Nigeria pour mener la guerre contre les djihadistes de Boko Haram. Un contingent qui a été accueilli en personne par le président tchadien Idriss Déby Itno. Les forces tchadiennes ont infligé de sérieux revers à leurs adversaires pendant leur mission, mais elles ont également subi de fortes pertes. Un nombre indéterminé de soldats tchadiens reste au Nigeria, mais cette fois sous le commandement de la force régionale formée par les États riverains du lac Tchad et le Bénin pour lutter contre Boko Haram. RCA, alors que la campagne pour le référendum constitutionnel prend fin aujourd'hui à minuit, la mission onusienne MINUSCA a publié ce vendredi un premier rapport sur la situation des droits humains dans le pays. Le point avec notre correspondant à Bangui, Freeman Sipila.
Le document, qui contient 26 pages en français, fournit un aperçu de quelques violations des droits humains depuis le 15 septembre 2014, date du transfert d'autorité de la MISCA à la MINUSCA jusqu'au 31 mai 2015. Durant cette période, au moins 775 cas de violations des droits de l'homme affectant au moins 785 victimes ont été documentés. Ces violations des droits humains ont été commises par des milices armées, des agents du gouvernement ainsi que les forces internationales. Moussa Gassama, directeur des droits de l'homme à la MINUSCA.
Il y a des exécutions arbitraires, de tueries, de meurtres. Il y a des détentions illégales, arbitraires. Il y a aussi ce qu'on appelle les mauvais traitements, même disons la torture des victimes et manque de respect de la dignité de la personne. Et aussi les violations contre les mêmes les personnes déplacées. Donc c'est ça des violations qu'on a citées dans le rapport.
Les enquêteurs demandent par ailleurs aux autorités centrafricaines de mettre la priorité sur la lutte contre l'impunité et de continuer à travailler urgemment pour la mise en place effective du tribunal pénal spécial. Entre-temps, la campagne en vue du référendum du 13 décembre prend fin ce vendredi à minuit, 23h, temps universel. Freeman Sipila, Bangui, VOA Afrique.
RDC voisine, le procureur général de la République a sollicité auprès de l'Assemblée nationale la levée de l'immunité de 3 députés d'opposition qu'il veut poursuivre pour faux et usage de faux. C'est ce qu'a affirmé hier Aubin Minakou, président de la Chambre basse, lors d'une séance plénière. Cette affaire intervient alors que le climat politique en RDC est très tendu. Depuis plusieurs mois, l'opposition soupçonne le président Joseph Kabila au pouvoir depuis 2001 de chercher par tous les moyens à contourner l'interdiction constitutionnelle qui lui est faite de se représenter en 2016.
La Voix de l'Amérique en direct de Washington.
Au Burkina Faso, 3 inculpés dans l'affaire Norbert Zongo, le dossier du journaliste assassiné le 13 décembre 1998 alors qu'il enquêtait sur la mort suspecte dans les locaux de la présidence de David Ouédraogo, qui était à l'époque l'un des chauffeurs de François Compaoré, le frère cadet de l'ex-président Blaise Compaoré. Selon les sources proches de l'enquête, les 3 soldats inculpés par la justice burkinabé sont le caporal Wampas Bana Koulma, le sergent Banagoulo Yaro et le soldat Christophe Komba. Série. Ces 3 anciens membres du régiment de sécurité présidentiel RSP, aujourd'hui dissous, sont aussi inculpés dans l'affaire du capitaine Thomas Sankara, le dossier du président burkinabé, assassiné le 15 octobre 1987 lors du coup d'État qui avait conduit Blaise Compaoré au pouvoir. En Angola, 4 opposants jugés depuis 4 semaines ont entamé une grève de la faim pour exiger la conclusion rapide de leur procès. Les précisions de Lionel Gaïma.
Les 4 militants font partie d'un groupe de 17 leaders politiques de la société civile arrêtés en juin dernier sous l'accusation de rébellion et de tentative de coup d'État. Ils sont tous membres du mouvement révolutionnaire de l'Angola qui exige le départ du président Dos Santos au pouvoir depuis 1979. Dans une lettre ouverte au chef de l'État angolais, les militants avaient menacé d'entamer une grève de la faim si leurs interrogatoires n'étaient pas conclus en fin de semaine. Parmi eux, le rappeur Luati Beirao, dont l'époux s'inquiète de l'état de santé. C'est très difficile pour les prisonniers. Ils ont été en cellule d'isolement pendant près de 100 jours et ils ne voyaient le ciel qu'une heure par jour, a confié Monica Berayo à l'AFP, ajoutant que son mari était déjà fragilisé par une première grève de la faim. Les accusés nient toute intention de mener un coup d'État, assurant mener une lutte pacifique.
En Arabie Saoudite, fin de la campagne pour les premières élections ouvertes aux femmes candidates, mais les perspectives de voir des femmes élues demain semblent très minces, Michel Joseph.
Plus de 900 femmes sont en lice face à quelques 6000 hommes pour siéger dans les 284 conseils municipaux du royaume, des assemblées chargées des rues, des parcs ou du ramassage des ordures. Ce scrutin est considéré comme un petit pas en avant vers l'égalité des sexes dans ce royaume ultra-conservateur qui était le dernier État à refuser aux femmes le droit de vote. Mais les Saoudiennes restent soumises à de nombreuses restrictions comme l'interdiction de conduire, un cas unique au monde et qui pourrait empêcher une partie des électrices de se rendre dans les bureaux de vote. Oum Mohamed, qui habite à la frontière du Koweït, indique qu'elle ne pourra y aller que si son mari l'y amène ou si elle loue avec d'autres habitantes une voiture avec un chauffeur. Les Saoudiens ont déjà voté deux fois pour des municipales en 2005 et 2011. C'est cette année-là, dans la foulée des printemps arabes, que le roi Abdallah avait accordé aux Saoudiennes le droit de vote et d'éligibilité. Deux ans plus tard, il avait nommé pour la première fois des femmes au Majlis al-Shura, un conseil consultatif. Malgré ces avancées, seules 130 600 femmes se sont inscrites sur les listes électorales pour le scrutin de samedi, soit environ 10 fois moins que d'hommes, selon des chiffres officiels.
Merci de votre attention. Plus d'infos sur notre site internet, c'est bien sûr voafrique.com. Vous pouvez également nous joindre sur notre page Facebook.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.